Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Réuni dans cette édition en un volume, Mémoire de guerre et Mémoire d'espoir rassemblent les deux grandes entreprises mémorialistes de Charles de Gaulle. Les premières retracent son action de 1940 à 1946, refus de la défaite, fondation de la France libre. Conduite de la guerre aux côtés des alliés et rétablissement de l'autorité républicaine à la libération. Les secondes, restées inachevées, portent sur son retour au pouvoir en 1958 et sur les débuts de la Ve République, dans le contexte de la crise algérienne et de la transformation des institutions. Il ne s'agit donc ni d'une autobiographie intime, ni d'une histoire neutre de Gaulle écrite comme acteur, témoin et interprète de décisions dont il veut dégager le sens national. Le récit associe scènes politiques, considérations diplomatiques, analyses institutionnelles et méditations sur la continuité de la France. L'ouvrage permet ainsi de suivre la formation d'une pensée gaullienne de l'État, de la souveraineté et de la légitimité, tout en lisant une œuvre littéraire fortement composée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le refus de l'armistice comme fondement d'une légitimité française extérieure. Dans les mémoires de guerre. La rupture de juin 1940 ne vaut pas seulement comme épisode biographique, elle constitue le point de départ d'une théorie de la légitimité. De Gaulle présente le refus de l'armistice et l'appel lancé depuis Londres comme la décision nécessaire pour empêcher que la défaite militaire soit assimilée à la disparition politique de la France. Son raisonnement repose sur une distinction constante entre un territoire occupé, des autorités installées en France et la permanence de la nation. La France libre doit précisément rendre visible cette permanence, alors même qu'elle dispose initialement de moyens réduits et d'une reconnaissance internationale incertaine. Le mémorialiste insiste donc sur le travail politique requis pour transformer une initiative personnelle en autorité représentative ralliée des territoires. Constituer des forces combattantes, négocier avec les alliés et relier l'action extérieure à la résistance intérieure. Cette perspective explique la place donnée aux tensions avec les gouvernements britanniques et américains. Elles ne sont pas seulement des conflits d'humeur. Elles concernent la capacité des Français à parler en leur propre nom dans la guerre et dans la paix future. Le récit éclaire ainsi une idée cardinale du gaullisme. L'indépendance nationale exige une autorité capable de la défendre, y compris au sein d'une alliance indispensable. Deuxièmement, la France libre, une guerre militaire, diplomatique et administrative à conduire simultanément. L'originalité des mémoires de guerre tient à ce qu'elles ne réduisent pas la libération à une succession d'opérations militaires. De Gaulle y montre qu'une nation combattante doit aussi disposer d'organes politiques, de relais administratifs et d'une stratégie diplomatique. La France libre n'est pas décrite comme un simple symbole moral, elle cherche à réunir des hommes, des territoires et des institutions afin de peser concrètement dans le règlement du conflit. Cette triple exigence explique l'importance du rapport aux empires coloniaux, aux mouvements de résistance, aux autorités alliées et aux structures provisoires de gouvernement. Le livre met en évidence une difficulté propre au temps de crise. Gagner des batailles ne suffit pas si l'on ne prépare pas l'exercice légitime du pouvoir après la victoire. Dans la narration gaullienne, la création d'instances françaises et la participation aux décisions alliées répondent à la crainte d'une France libérée mais administrée de l'extérieur ou divisée entre factions rivales. Cette articulation entre guerre et reconstruction donne au texte sa densité politique. Elle permet également de comprendre pourquoi De Gaulle accorde tant de valeur à l'unité nationale. Celle-ci n'est pas présentée comme une unanimité réelle, mais comme une condition d'action dans un pays marqué par l'occupation, les rivalités partisanes et des intérêts internationaux concurrents. Troisièmement, la libération et le rétablissement de l'État contre le vide institutionnel. La période de 1944 à 1946 occupe une fonction décisive dans les mémoires de guerre après avoir revendiqué la continuité française pendant l'occupation. De Gaulle doit la traduire en institution effective sur le territoire libéré. Le problème central devient alors le rétablissement rapide de l'autorité de l'État. Dans un pays matériellement éprouvé, politiquement fragmenté et exposé à de fortes attentes sociales, le récit met l'accent sur la nécessité d'éviter à la fois le désordre local, la captation du pouvoir par des forces particulières et la dépendance à l'égard des alliés. Cette priorité permet de comprendre le regard critique porté sur le régime des partis et sur l'instabilité gouvernementale. Pour De Gaulle, l'efficacité de l'action publique ne peut reposer exclusivement sur des combinaisons parlementaires fluctuantes. Elle suppose un pouvoir exécutif doté d'une responsabilité identifiable et d'une capacité d'arbitrage. Ces pages ne doivent pas être lues comme une chronique exhaustive de la France libérée, elles proposent une interprétation orientée, centrée sur les choix du chef du gouvernement provisoire. Mais elles restent essentielles pour saisir le lien que l'auteur établit entre restauration républicaine, indépendance diplomatique et réforme institutionnelle. la Ve République apparaîtra ensuite comme la réponse durable à des fragilités déjà diagnostiquées à la Libération. Quatrièmement, le retour de 1958 et la Ve République comme réponse à la crise de l'autorité. Les mémoires d'espoir déplacent le centre de gravité du récit, il ne s'agit plus de faire exister la France dans une guerre mondiale, mais de sortir d'une crise de régime aggravée par la guerre d'Algérie. De Gaulle expose son retour aux affaires en 1958 comme une prise de responsabilité devant l'impuissance des mécanismes politiques de la IVe République. Son analyse fait de la réforme institutionnelle une condition préalable au traitement des crises et non un simple ajustement juridique. La constitution de la Ve République est ainsi comprise à travers ses principes directeurs: continuité de l'État, autorité de l'exécutif, rôle d'arbitre du président et recours au peuple comme source de légitimité. Le texte aide à distinguer cette conception d'un pouvoir personnel sans règles. De Gaulle insiste au contraire sur la rencontre entre une fonction présidentielle forte, des institutions définies et la sanction démocratique. Toutefois, sa présentation demeure celle d'un protagoniste qui justifie ses décisions et hiérarchise les alternatives selon sa propre vision du salut public. Elle ne remplace donc pas les travaux historiques sur les oppositions de l'époque. Sa valeur spécifique est d'exposer depuis le sommet de l'État le raisonnement qui relie institutions, autorité et capacité de décision. Les débuts de la Ve République y apparaissent moins comme une abstraction constitutionnelle que comme une réponse pratique à une situation de division nationale. En dernier lieu, guerre d'Algérie, souveraineté et limite d'un récit présidentiel inachevé, dans les mémoires d'espoir. La guerre d'Algérie constitue l'épreuve la plus révélatrice de la méthode gaullienne au pouvoir. De Gaulle y décrit un problème où se croisent conflits armés, avenir des populations, pression militaire, affrontements partisans et relations internationales. Son récit permet de comprendre pourquoi la question algérienne ne pouvait, à ses yeux, être réglée par la seule préservation de l'ordre existant, elle engageait la paix civile, la crédibilité de l'État et la place de la France dans le monde. L'intérêt du texte réside dans l'exposition des contraintes pesant sur la décision présidentielle et dans l'importance attribuée à la souveraineté française face aux attentes d'alliés ou d'adversaires. Mais cette lecture doit conserver une distance critique. Les mémoires privilégient la cohérence de l'action du général et son point de vue de décideur. Il ne donne pas une représentation équivalente de toutes les expériences, notamment algériennes, ni de toutes les forces politiques en présence. Leur caractère inachevé renforce cette limite. L'œuvre ne couvre pas intégralement la présidence jusqu'en 1969, sous la forme mémorialiste initialement envisagée. Les documents et discours ajoutés dans certaines éditions prolongent utilement l'ensemble, sans combler entièrement cette absence. Cette tension entre documents irremplaçables et plaidoyers politiques est précisément ce qui en fait une source à lire avec attention plutôt qu'un verdict définitif sur l'histoire. En conclusion, Mémoire de guerre et Mémoire d'espoir s'adressent d'abord aux lecteurs d'histoire de France contemporaine, de la Seconde Guerre mondiale, de la Résistance, de la décolonisation et de la Ve République. Il sera particulièrement utile aux étudiants et aux lecteurs déjà familiers des grandes chronologies, car sa densité, son ampleur et sa perspective très personnelle demandent une lecture attentive. Il offre un bénéfice intellectuel précis, non seulement connaître des événements majeurs, mais comprendre comment l'un de leurs principaux acteurs justifie ses choix, conçoit ses marges de manœuvre et relie l'action immédiate à une idée durable de l'État. Le livre invite ainsi à distinguer faits, interprétations et stratégies de représentation de soi. Par rapport à une synthèse historique ou à une biographie, l'ouvrage se distingue par l'accès direct à une voie politique exceptionnellement structurée. De Gaulle ne livre pas des confidences privées. Il compose un récit où la France, la souveraineté et la continuité de l'État forment les fils directeurs de son action. Cette hauteur de vue, servie par un style travaillé, explique sa place singulière dans la littérature mémorialiste française. Elle constitue aussi sa limite, la cohérence imposée au récit peut atténuer les divisions sociales, les contestations et les responsabilités partagées. Lire ses mémoires conjointement avec des études historiques critiques permet donc d'en tirer le meilleur parti. On y trouve à la fois une source de premier ordre, une réflexion institutionnelle et l'autoportrait politique d'un chef d'État qui entend faire de son itinéraire une interprétation de l'histoire nationale. Si vous souhaitez soutenir Charles de Gaulle, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.